Nous avons parlé la semaine passée de la parole de Dieu comme priorité installée dans nos vies. Elle n'est néanmoins pas la seule arme, même si ce terme peut être un peu connoté négativement, elle n'est pas la seule arme que nous possédions, que Dieu a mis à notre disposition pour avancer et nous protéger dans cette vie. Il m'a donc semblé important, ce premier message de l'an, de rappeler les enjeux généraux qui seront à nouveau les nôtres durant l'année 2020, puisque la réalité, justement, ne change malheureusement pas encore. Et d'en rappeler au passage, par la parole de Dieu, les tenants et les aboutissants, et dans quelle mesure les armes mises à notre disposition pourront agir puissamment dans nos vies. Donc la pensée de Dieu dans l'absolu, ça n'est pas que nous menions des vies recroquevillées sur elles-mêmes, mais des vies merveilleuses, par rapport à lui, hein, quand je dis merveilleuses, hein. D'accord, pas plus spécialement d'argent, pas plus de ceci ou de cela, mais plus de proximité avec Dieu et plus de prise de conscience de ce qu'est le monde dans lequel nous sommes venus au monde. Et pour ce faire, je vais prendre avec vous pendant 2, voire 3 dimanches un passage se situant dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Je pense que ce passage est assez connu de certains d'entre vous. Je crois qu'on a souvent parlé de ce passage, on a souvent enseigné ce passage, en remettant quand même en perspective que, à ma connaissance, ça ne change pas grand-chose. Comme c'est étrange. Donc je vous propose donc une étude ou une réflexion sur ce passage pendant 2-3 dimanches. Éphésiens 6, les versets 10 à 17. Je précise pour les puristes que ça la constitue le dernier chapitre. Donc Paul est en train de clôturer sa lettre aux Éphésiens, où il a parlé entre autres de l'Église en particulier. Et il nous envoie ça en conclusion. Allez hop, boum, comme si c'était une évidence, comme si nous savions ça, comme si nous vivions par rapport à ces différentes réalités. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Paul nous rappelle ici une chose importante, et je pense que nous n'avons pas vraiment envie d'entendre ça, c'est que nous sommes en guerre. Alors les conflits, ça ne dérange personne quand ces conflits se situent dans la vie de l'autre. Ça dérange encore moins les gens quand ils sont au cinéma, qui regardent Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, où ça culbute, dans le sens guerre, j'entends, dans tous les sens. Ça ne nous dérange pas parce qu'on est spectateurs. Ici, nous ne sommes pas spectateurs, nous dit Paul. Nous sommes, que nous en soyons conscients ou pas, que nous le voulions ou pas, nous sommes dans un conflit. Et comme dans tout conflit, nous avons un certain ennemi possédant de nombreuses armes à sa disposition. Alors j'ai réfléchi sur le sujet. Pour faire simple, toutes les conséquences de la chute de l'homme, de notre chute. Citons rapidement le péché et son cortège d'aveuglement, d'autosatisfaction, d'orgueil, d'égoïsme, de bêtises, de blessures narcissiques, de violence, de doute, de folie, d'athéisme, d'agnosticisme, de spiritisme, de satanisme, tous des verbes en isme, tous des termes en isme, et ils sont sans fin, en tout cas en français, et de tentation. Et j'en ai bien entendu oublié un certain nombre. Si guerre il y a bien, elle est, nous dit Paul, d'une toute autre nature que celle auquel l'histoire de l'homme nous a habitués, puisque cette guerre est spirituelle dans son essence. Elle n'est pas physique. Donc, commencez pas en sortant d'ici à prendre des cours de Krav Maga, de Jiu-Jitsu, de Judo en dessous, de Judo, de tout ce que vous voulez, ça n'est pas nécessaire. Cette guerre est spirituelle et cosmique, ça c'est fort, hein, mais c'est vrai, puisqu'elle engage des belligérants, dont de nature spirituelle, et qu'elle a pour enjeu le cosmos et les sphères spirituelles célestes. Rien que ça. Ça, c'est l'enjeu de la guerre. Alors, je sais, pour un message de début d'année, c'est un peu dur, je sais que ça bouscule un peu notre petit monde bien organisé, et surtout, même si nous sommes chrétiens, notre petit monde très rationnel. C'est vrai, la vie de la majorité des chrétiens aujourd'hui, c'est métro, boulot, dodo et la famille s'il y en a une. Avoir un bon travail, un bon couple, des enfants qui réussissent bien à l'école. Afin d'avoir un bon travail, un bon couple, des enfants qui réussissent bien à l'école, je pense que vous avez compris le principe. On est en fait, dans nos vies, bien loin de la réponse à l'appel aux armes attendu par Dieu. Nous avons perdu les idéologies du XXe siècle et les avancées scientifiques aidant toute notion des véritables enjeux et du rôle surtout que nous sommes appelés à jouer de ce conflit spirituel et cosmique. Notre conception du monde a souffert énormément des bouleversements qu'a subi le monde durant ces deux derniers siècles. Énormément. Nous avons perdu notre rapport au réel tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu. Notre réalité ne se base plus là-dessus. Plus du tout. Je me rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, de ce que les représentants politiques français avaient déclaré juste après les attentats de Paris, le Bataclan et voilà, des centaines de morts. Écoutez bien, ce sont nos valeurs que ces terroristes ont attaquées. Ça, on peut entendre. Hein. Ah oui, il va donner les valeurs de la démocratie. Notre liberté de sortir, de nous rassembler, de faire la fête. Waouh! Quand j'ai entendu ça, mes amis, il y a quelques années, je me suis dit, là, on est quand même très loin. Voilà donc tout ce qui reste des valeurs de la démocratie. Je rappelle quand même cette démocratie basée sur des valeurs chrétiennes, d'égalité, de fraternité, le droit de s'amuser, de consommer et de prendre du plaisir. Je pense malheureusement que nous en sommes là et que nous sommes guettés par la même indigence intellectuelle et spirituelle. Voilà donc où nous aura mené la révolution, la revendication à la liberté, la fraternité, l'égalité. Voilà donc la progéniture accouchée par l'idéal démocratique, la société de consommation. La pseudo-liberté de l'homme l'aura donc enchaînée à deux nouveaux maîtres, le consumérisme et le relativisme. Et je vais forcément, vu le contexte de notre passage, plutôt plancher aujourd'hui, me concentrer sur le relativisme. Parce que le relativisme, vous savez ce que c'est le relativisme, hein, c'est de ne considérer rien comme absolu. Pour faire simple. Mais ce relativisme a touché la parole de Dieu aussi. Nous ne venons pas de nulle part. Si la théologie est ce qu'elle est aujourd'hui, si elle est mal enseignée, si elle est mal comprise, si les chrétiens souffrent de leur méconnaissance de la parole de Dieu, c'est parce que ils sont responsables de ça, à leur titre individuel, mais c'est parce que si le relativisme théologique, relativiser ce que Dieu dit dans sa parole, a touché toutes les sphères chrétiennes. Dès les années 30, en Allemagne, ça n'étonnera personne, puisque la théologie libérale est née en Allemagne. Un théologien allemand du nom de Rupp, c'est comme ça qu'on disait, hein, avançait que les autorités et puissances dont Paul parle ici dans notre passage étaient en fait les régimes politiques et les idéologies contraires à la pensée de Dieu. Voilà. Il se dit, ce truc de diable, de sphère céleste, ça ne fait plus très sérieux. Repassons au réel d'ici-bas. Et donnons une explication que tout le monde peut comprendre et très rationnelle de ce qui se passe et de ce que Paul dit dans ce texte. Donc ce théologien, et à sa suite, il va en avoir une traînée d'autres derrière lui, il affirme donc ici que Paul ferait référence aux petits, aux peuples qui souffrent des grands bouleversements sociaux, des grandes forces de l'histoire, victimes des contraintes économiques et sociales. Et il conclut donc qu'au cours des siècles, les principautés et les pouvoirs, dont on parle Paul, ont revêtu bien des formes différentes. Et il cite entre autres dans son livre abondamment les despotismes divers et variés. Alors, mes amis, soyons clairs, au point de vue historique, tout ça est très juste. Hein. Il y a eu des dictatures dans l'histoire de l'homme, on y retourne, hein, là, je vous l'annonce, hein, on y retourne. Hein. Vu l'état de la démocratie, on est en bout de cycle, on va se retrouver des hommes soi-disant providentiels, hein, avec une cravache dans une main et des bottes aux pieds. Quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien le bruit des bottes. Je ne sais pas pourquoi. Donc tout ça est très juste au niveau historique, mais est d'un vide théologique, parole de Dieu, abyssal. On ne peut pas analyser l'histoire puis la faire entrer de force dans le domaine biblique. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un principe d'exégèse, d'interprétation des textes. Autrement dit, dire que ces pouvoirs et ces principautés dont parle Paul sont les forces économiques, sociales et politiques relève d'un manque total de fondement biblique. Alors bien sûr que ces réalités existent et bien sûr que les chrétiens doivent se montrer dans surtout les domaines sociaux où les gens manquent de tout et en permanence. Ils doivent se montrer dans les domaines où on porte atteinte aux droits de l'homme, tout ça est tout à fait vrai, puisque cet homme est fait à l'image de Dieu, qu'il connaisse Dieu ou pas. Mais nos ennemis ne sont pas ceux qui commettent de tels actes. Nos ennemis ne sont pas ceux qui asservissent l'homme, pas du tout. Ce ne sont pas les dictateurs en tout genre. Nos ennemis, nous dit Paul, ce sont ceux qui, en coulisses, tirent les ficelles de ce théâtre de marionnettes géants. Et vu le poids du mec, le marionnettiste, il a des bras comme ça. Hein. Ce n'est pas pour ça que tous ces êtres humains faits, dira Paul, de chair et de sang, n'ont pas leur responsabilité dans ce qu'ils font. Ils sont responsables devant Dieu. Mais il y a quelque chose de plus grand et de plus dangereux derrière. D'ailleurs, réfléchissons deux secondes. Les dictatures du XXe siècle ont été détruites en tuant des êtres de chair et de sang qui portaient ces idéologies de mort. Si je prends le régime nazi, par exemple, ça a coûté, vous le savez, près de 60 millions de vies humaines. Comment dès lors Paul pourrait-il dire que nos ennemis, ce ne sont pas les hommes, mais les puissances et les autorités, si ces puissances étaient uniquement représentées par des hommes qu'il faudrait tuer ? C'est de l'argumentaire, hein, c'est simplement ça. Ce serait déjà, me semble-t-il, désobéir à un des commandements les plus importants dans la parole de Dieu, « Tu ne tueras pas ». Alors pour ceux qui se posent la question, s'il y a une dictature, est-ce qu'on prend les armes ? Vous ferez ce que vous voulez, moi je ne prendrai pas les armes. Moi je ne tue pas des gens. Oui, mais ce sont des salauds. Mais par définition, nous sommes tous des salauds. Donc ce n'est pas le but, ça. Ce n'est pas le principe. On ne tue personne. Si, c'est moi qui dis ça. Hein. Si. On ne tue personne. Ce n'est donc pas en nous opposant, ou pire, en tuant des êtres de chair et de sang, que nous gagnerons la bataille contre ces principautés et ces puissances. Parce que réfléchissez, si vous tuez quelqu'un, même si ce quelqu'un est quelqu'un d'abominable, vous perdez la bataille, puisque vous employez des armes qui ne sont plus les vôtres. D'ailleurs, soyons clairs, les dictateurs ne survivent que rarement à l'effondrement de leur régime. Paul ne peut donc pas parler ici des puissances économiques seulement, ou des puissances politiques. Au contraire, en parlant de puissance, il nous parle d'êtres, et des êtres, ne faisant pas partie de notre humanité, faite de chair et de sang, comme le dit le texte grec. Et si parfois, c'est vrai, l'apôtre utilisait le même terme à d'autres endroits de l'Écriture pour parler des gouvernements humains, le contexte et le pluriel ici, spécifique utilisé, suffisent, me semble-t-il, à faire taire tous les doutes concernant la pensée de l'apôtre. Il ne parle pas des réalités politiques et économiques de son temps ou de tous les temps, mais bien d'une sphère spirituelle bel et bien réelle. Alors, je suis conscient de ça, mes amis. C'est vrai que ce serait plus confortable de se dire que nous sommes confrontés simplement, au travers de ce passage, à l'énumération d'une réalité composée de principes économiques, sociaux et politiques. Pourquoi ? Parce que ce serait beaucoup plus simple et plus effrayant. Nous sommes là en tant qu'Église pour nous opposer aux méchants gouvernements qui sont méchants, de droite ou de gauche, et à la réalité économique qui écrabouille les gens. Ce serait plus simple. Franchement. On serait au nez de notre boulot, on s'oppose à ça de différentes manières, et puis c'est bon. Oui, mais ce n'est pas le contexte du tout, malheureusement. Paul parle bien ici de Satan, du diable, dit-il, et de sa clique. Oui, il existe bel et bien. Et pourtant, on prend de moins en moins en compte son existence. Alors vous me direz, pourquoi ? C'est pas très compliqué. Hein. Parce qu'il a réussi, pour faire simple, en Occident en tout cas, en Occident, à se faire oublier même, par les chrétiens. Son plus grand tour de passe-passe, comme le disait quelqu'un, a été de faire croire à sa non-existence. Ici, un jour, quelqu'un m'a dit, comment se fait-il, une sœur africaine m'a demandé, « Pasteur, comment se fait-il qu'ici, vous n'avez quasi aucun cas de possession ?» Je lui ai dit, « Ça n'est plus nécessaire. » Ici, plus personne ne croit en lui. Donc, il fait ce qu'il veut, sans que personne ne rattache ce qui se passe à sa personne et à son action. Lui, c'est « Yes ». Il a inventé le matérialisme, le consumérisme, le relativisme, l'athéisme, c'est le pied pour lui. Il peut continuer à agir simplement, en n'ayant pas d'ennemis, puisque l'Église s'endort de plus en plus, il n'a plus besoin de faire tout ça. J'ai eu par exemple l'occasion de feuilleter, pas plus tard que la semaine passée, le cours de théologie de Jessica. Enfin, de théologie, il faut le dire très vite. Hein. Cours portant en particulier sur le mal et son origine. À la rubrique du contenu biblique, le professeur se contente de dire que Satan est le symbole du mal, le symbole du mal dans la Bible, que les narrateurs bibliques ont personnifié le mal afin de trouver un opposant à Dieu, et surtout dès lors, puisqu'il y avait un opposant, une explication en dehors de Dieu au mal. Autrement dit, on ne peut plus attribuer le mal à Dieu. C'était voulu par les rédacteurs bibliques pour exempter Dieu de tout rapport au mal. Non seulement ça ne tient pas debout, parce que même si Dieu existe, et si le mal n'est qu'un principe, ben le principe c'est forcément Dieu qui l'a créé. En tout cas, on peut se poser la question. Donc ça ne tient pas debout, mais il y a plus que ça. Il rajoute qu'il s'agit donc d'une mythologie, autrement dit d'un truc qui n'existe pas, qui n'est pas considéré comme étant réel. D'ailleurs, il termine en ajoutant, « D'ailleurs, la grande majorité des gens, donc chrétiens compris, de nos jours ne croient plus au diable. » Donc l'argument, c'est « Puisque plus personne n'y croit, c'est que forcément, quelque part, il ne doit pas exister. » Troisième année d'études à l'université de Louvain. Alors, qu'on ne croit plus au diable avec des enseignants pareils, ah, ça c'est certain, ça. Heureusement, j'étais assis de nouveau hein, quand j'ai vu ça. Enfin, lu, en diagonale. Hein, parce que... Mais mes amis, c'est à ça que je veux arriver, vraiment. Il y a des conséquences à ça. Vous pouvez ne pas croire au diable, hein, à l'existence du diable. Ça, c'est votre liberté, votre responsabilité. Seulement, je tiens à préciser ceci. Pour un chrétien, ça revient à nier la représentation du réel défendue par la Bible et dès lors de mettre celle-ci à égalité de sens et d'autorité avec d'autres représentations du réel et leurs limitations. Vous êtes à ce moment-là dans ben, votre représentation du réel, elle vaut simplement ce que vaut la représentation d'un communiste, d'un capitaliste. Voilà. Tout se vaut, tout se mélange, tout s'interprète, tout est bon. Mais tout est limité et rien n'est plus vrai à ce moment-là. La vérité n'existe plus. Alors, un non-chrétien, ça va de soi, ne croira que difficilement au diable et à l'univers démoniaque et on peut le comprendre justement parce que la représentation du réel qui est la sienne n'intègre pas la dimension spirituelle. Un non-chrétien, par définition, il ne croit pas en Dieu et il ne croit pas non plus aux êtres angéliques et à la sphère spirituelle. Et c'est normal. Paul dira... La parole de Dieu est irrecevable en termes de compréhension par un non-chrétien parce que c'est par l'esprit qu'on sait que ces choses sont vraies, par l'esprit de Dieu. D'ailleurs, si on vient au Christ, c'est parce qu'à un moment, l'esprit de Dieu nous éclaire sur la réalité des choses. Sans son aide, sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas entrer dans cette dimension. Donc, un non-chrétien ne croit pas au diable, ça me paraît plutôt logique, hein. Par contre, nier cette réalité pour un chrétien est une négation de son être, une négation de son salut, de sa foi et de la parole de Dieu comme autorité dans sa vie. Ça va, hein? Hein? Non, mais c'est vrai. Alors même si c'est un choc pour nous, une découverte ou un rappel, je crois que c'est salutaire. C'est salutaire parce que s'il est toujours triste d'être blessé ou de mourir à la guerre, c'est surtout idiot quand on meurt dans un conflit dont on ignore tout. On est parfois blessé, mes amis, dans nos vies spirituelles, dans nos vies tout court, par ce conflit, parce qu'on est dedans sans s'en rendre compte. On ne comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on ne tient pas en compte cette réalité. Petite parenthèse pratique, je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive quand j'essaye de prier, parce que tout le monde dit « Oh, mais la prière, c'est tellement simple. » Quand j'en entends certains, c'est... Moi, il n'y a rien de plus naturel que de moins naturel que de prier. Donc, avec le temps, forcément, on s'exerce. Quand parfois j'essaie de prier, je sais très bien si ce sont mes pensées qui obscurcissent ma capacité de rapport à Dieu, si c'est parce que j'ai fait l'andouille juste dans l'heure avant ou j'ai fait quelque chose qui déplaît à Dieu qui pourrait éventuellement me cacher sa face, ou si je suis en train de subir des pressions démoniaques, parce que ça existe, hein, qui m'empêchent de prier. Parfois, en analyse, je dis « ça ne vient pas de moi, donc je sais où je suis et je sais ce qui s'oppose. » Je ferme ma petite parenthèse. Donc, j'ai envie de dire que cette sphère spirituelle négative et mauvaise est aussi présente dans la vie du chrétien que la présence de son Seigneur lui-même. Je sais bien qu'il y a encore des chrétiens par exemple, qui pensent que les démons ne peuvent pas rentrer dans une église, c'est à mourir de rire, hein, peut-être assis sur les chaises. Hein. Okay. Ils vont commencer à paniquer comme des fous, là. Alors, je sais encore une fois que nous aimerions tous couler des jours heureux, avoir une vie tranquille, auprès de ceux que nous aimons et de nos frères et sœurs dans la foi. Chanter des cantiques, ce qui représente pour la grande majorité des chrétiens aujourd'hui, ce qui rapproche le plus d'un engagement. Oui, il fallait que je la dise, celle-là. Nous aimerions bien sûr, mais ce n'est pas possible, pour la simple raison que cette voie est fermée. Les chrétiens que nous sommes doivent envisager le conflit avec l'ennemi de Dieu et le leur, parce que c'est une réalité. Nous devons accepter les implications du passage de cette lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Ce passage n'est ni plus ni moins qu'un appel au combat. Le clairon résonne. Tadam, il faut se lever et avoir du courage. Aïe, aïe, aïe. Ce sont des hommes, même les femmes, pour une fois. Parce qu'il n'y aura aucun armistice, mes amis. Aucun cessez-le-feu jusqu'à la fin de l'histoire qui verra l'instauration de la paix du ciel sur la terre et l'instauration du royaume de Dieu. Tant que ça, ce ne sera pas fait, ce combat, nous serons dedans. Alors c'est vrai, rassurez-vous, hein, nous avons d'ores et déjà la paix du Christ par l'œuvre de sa croix. Tout ça est vrai, mais celle-ci devra se vivre justement au milieu d'une lutte implacable contre le mal. Encore une fois, ne croyez pas au diable, ben, vous n'aurez pas de problème, puisque vous n'aurez pas d'ennemi. Dans cette guerre, vous l'aurez compris, c'est ce que Paul nous dit, nous aurons donc besoin de la force de notre Seigneur et de toutes les armes qu'il voudra bien nous donner. Je suis en train de me dire que si quelqu'un rentre maintenant dans l'église, il va avoir du mal à comprendre. Comme quoi, on ne pense pas à tout. Hein. De toute façon, il faut que nous prenions conscience d'une chose, hein, c'est que l'église a toujours été la cible des attaques incessantes de l'ennemi parce qu'elle incarne le projet d'unité, de diversité et d'harmonie de Dieu pour l'homme. On attend que le royaume arrive. Ce qui se rapproche le plus de la pensée de Dieu pour l'humanité, c'est l'Église. Oui, je sais, c'est raté, vous vous dites, mais bon, pas tout à fait. En tout cas, il faut travailler. Rappelez-vous de ce mur dont j'ai parlé il y a des semaines, hein, de ce mur dont Paul parle dans cette même lettre aux Philippiens, et que Dieu a fait tomber par la croix de son Fils. Paul le dit, le mur de séparation a été détruit par l'œuvre du Christ à la croix. Et bien entendu, ce mur, les principautés, les puissances dont parle Paul, feront tout pour le reconstruire. Ce mur qui érigeait la haine entre les races, les peuples, les statuts sociaux et que Dieu a fait tomber à la croix, l'ennemi fera tout pour le faire tomber. Comme l'Église est le seul endroit où ce mur est tombé, c'est là qu'ils vont concentrer leurs tirs et leurs actions pour reconstruire ce mur, pour qu'il y ait des divisions d'Église. Vous savez quelle association d'Église a la plus grande puissance d'implantation, quel est le milieu d'église où on implante le plus d'église, les milieux de Pentecôte. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a deux pasteurs qui se disputent, il y en a un des deux qui perd et qui construit une église. Et alors on dit, oh, quand on voit les chiffres, les stats, on dit, oh, mais quelle puissance. Non, hein. Division. Forcément, si je suis un prophète et un autre prophète et que les deux prophètes que nous sommes ne sont pas d'accord sur la prophétie, on va être mal. Hein, je suis taquin quand même. Il faut être conscient de ça. Ça fait 2000 ans qu'on bombarde l'Église pour la détruire. Alors, ces puissances se serviront de toutes les faiblesses des chrétiens, en particulier ceux n'étant pas conscients de la bataille qui fait rage. Ils se serviront justement de leurs préjugés raciaux, économiques et sociaux. On va quand même pas aider ces gens. Ah, il a pas d'argent, il a qu'à arrêter de fumer. C'est quoi ? Un préjugé social. Voilà, c'est plié. Voilà, c'est plié. Ils se serviront des disputes théologiques sans fin, des divisions pour cause d'égo démesuré. Je ne suis pas concerné. J'ai toujours raison, c'est pas très compliqué à comprendre. Je plaisante, hein, je plaisante. Ils se serviront du manque de miséricorde des uns et forcément du jugement des autres. Ils se serviront aussi, surtout de ceux supposés servir Dieu. Et si ça ne suffit pas, si les chrétiens résistent, il y en a quand même certains qui essaient de résister, ben ils se serviront de la persécution. Ils se serviront, je l'ai dit tout à l'heure, du relativisme théologique. Ouais, mais enfin, les démons, il faut arrêter. Les anges, allez, il faut être sérieux. Hein. Ils se serviront de la psychologie supposée aider l'humain, mais qui a bien souvent conduit le chrétien à se focaliser en permanence sur lui-même et pas sur Dieu. Moi, je connais des gens qui sont depuis 20 ans en thérapie et qui pensent se connaître. Ils connaissent le pire, ça c'est sûr, mais quant à savoir sortir de là, ça c'est une autre question. Ils se servirent donc aussi de l'habitude qu'ont prise bon nombre de chrétiens depuis des années de chercher de l'aide en dehors de l'Église, concernant des problèmes qui concernent d'abord Dieu et l'Église et auxquels très souvent Dieu seul a la réponse ou a la réponse. Ils se serviront, je l'ai dit dimanche passé, du ministère d'enseignement dans l'Église pour semer du sel sur le terrain du monde où la semence de Dieu est semée, pour dispenser l'erreur et le mensonge, sachant en plus que cela flattera ceux et celles qui n'aiment être caressés que dans le sens du poil. C'est Paul qui annonce ça aussi. Ils vont se donner des maîtres, l'Église se donnera des maîtres dans la fin des temps, et nous y sommes dans les derniers jours, l'Église se donnera des maîtres qui vont flatter les gens et les brosser dans le sens du poil. Ce n'est pas de chance pour vous, vous êtes mal tombé. Ma brosse, elle va dans un sens, et pas dans le sens du poil. Ils se serviront de la méconnaissance toujours plus grande de la parole de Dieu dont font preuve les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se serviront de la musique et de la louange pour transformer l'Église du Christ en salle de spectacle et pour distiller une fausse théologie au travers des chants. Ou pas de théologie du tout, ce qu'il y a vu aux mains. Et je redis, je ne suis pas contre la louange. Voilà. Ils se serviront même de vos bons sentiments et de vos bonnes actions pour vous pousser à vous sentir proche de Dieu parce que vous posez ces actions et dans le même temps supérieur aux autres. Mais qu'est-ce que je suis aimant? Mais qu'est-ce que je fais de bien? Comment je fais le bien, moi? Tous les jours de ma vie, mais je fais le bien, mais je suis merveilleux. Ils se serviront des tentations, des ruses et de toutes les armes dont ils disposent. Et au vu de l'histoire de l'Église, mes amis, ils savent s'en servir de ces armes. Toutes ces armes sont puissantes et ont prouvé leur efficacité parce que ceux, ne nous trompons pas, ceux qui les utilisent sont puissants. Donc il y a une chose que nous ne devons surtout pas faire, c'est sous-estimer ces puissances. Passons donc en revue nos armes, et plus précisément notre armure et ses différentes parties. J'aime bien que cette histoire d'armure, ça peut faire un peu passéiste. Peut-être que si Paul était aujourd'hui en train d'écrire ça, il décrirait peut-être l'habillement du soldat, pas américain, non, anglais, probablement. Alors avant de commencer, je voudrais confesser ma paresse. En 1655, un pasteur puritain du nom de William Gurnall, souriant le gars, c'est un pasteur, il a publié donc en 1655 un ouvrage intitulé « Le chrétien en armure complète ». Il a dédicacé le livre aux membres de son église en écrivant dans la préface qu'il n'était qu'un pauvre et indigne pasteur. Un pasteur, c'est très humble, hein, donc ça le dit. Quant à son livre, il n'est, dit-il, que la petite pièce de la veuve, vous vous rappelez de ce passage de l'Évangile, hein, un maigre cadeau. Petite pièce, oui, maigre cadeau. Il faut savoir que le livre a été publié en 3 tomes de 261 chapitres, le tout fait 1472 pages. Tout ça pour commenter 11 versets, nos fameux 11 versets dont je viens un peu de parler. Je vous confesse donc doublement ma paresse. Un, je n'ai pas lu ce livre et je ne compte pas le faire, surtout qu'en plus il est qu'en anglais, du 17e. Et deux, je ne compte pas rédiger 1472 pages de notes sur le sujet. On serait encore là dans la nouvelle année, dans 6 ans, 7 ans, en moyenne. On va reprendre le texte de Paul concernant les armes. Première chose que Paul dit, « Ayez autour de votre taille, ou ayez à vos reins, sur d'autres traductions, la vérité pour ceinture. » Alors, ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, de nos jours, hein, la ceinture, ça sert à un truc, fondamentalement, c'est tenir son pantalon. Et quelle grande vérité, hein ? Franchement, vous êtes content d'être venu. Hein. À part peut-être parfois pour ces dames, ça peut être décoratif. Ou même pour ces messieurs, parfois. Ça peut l'être aussi. Mais normalement, aujourd'hui, on met une ceinture pour tenir son pantalon. À l'époque de Paul, ça n'est pas vraiment le cas. Déjà parce que les pantalons, on est dans le côté Moyen-Orient, dans les Épîtres, hein, ou Turquie actuelle, on n'est pas trop en Gaule encore. Vous voyez, les trucs Obélix, Saccaro, avec. Voilà. Et ici, forcément, Paul fait plus précisément référence à une ceinture, la ceinture du soldat. Elle était, vous ne le savez peut-être pas, elle était généralement en cuir et ajustaient donc la tunique, parce qu'ils avaient une tunique en dessous du reste, la tunique à la taille, et elle servait aussi, accessoirement, à maintenir l'épée. Vous vous promenez comme votre parapluie avec l'épée en dessous de votre bras, vous êtes sur un champ de bataille, vous allez faire rire tout le monde. Ça peut être une tactique, faire mourir de rire l'adversaire. Ça peut marcher. Elle permettait donc pratiquement aux soldats de marcher, parce qu'ils marchaient beaucoup, de marcher sans être gênés. Parce que si cette ceinture n'était pas là, si la tunique n'était pas ajustée à sa taille, bien, le reste de l'harnachement, vous oubliez. Ça allait le déranger, ça allait flotter, il n'allait pas être bien pour marcher, ça, pas possible. Okay? Donc, le principe que Paul émet ici, c'est tout simplement qu'en la serrant autour de lui, garder la vérité due à l'esprit, en la serrant autour de lui, il se sentait plus fort et plus confiant. Ça commence à prendre sens, la dimension de ceinture. Si vous n'êtes pas fondé dans la vérité, ça va être compliqué. Alors aujourd'hui, se serrer la ceinture, pour ceux qui savent, ici chez mec, il n'y en a pas beaucoup, franchement, je vous connais. Je sais que vous bafferez tous comme des fous. Je rappelle quand même, encore une fois, que les excès de table, donc trop manger, Galates 5:20, ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Mais les fruits de France ancienne nature, donc il faut apprendre à vous modérer. Donc se serrer la ceinture, c'est pour nous accepter des privations pendant un certain temps, une heure ou deux, en moyenne. Mais pour les anciens de l'époque de Paul, se serrer la ceinture, c'était donc se préparer à l'action, qu'il rendait d'ailleurs par une autre très belle expression, à savoir se ceindre les reins. Rappelez-vous, ça m'a fait penser à ça, rappelez-vous l'épisode de la toute première Pâque, celle célébrée en Égypte par Moïse, et les consignes données par Dieu à Moïse pour la célébration de cette première Pâque juive de l'époque. Vous vous rappelez? C'est intéressant ce passage. Quand vous le mangerez, donc l'agneau, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être debout, parce qu'ils allaient partir, sortir de l'esclavage. Et ils avaient un long voyage, un long pèlerinage à faire jusqu'en terre promise. Et puis, rapidement, ils n'allaient pas se délecter du symbole même de la mise à mort des premiers d'Égypte. Et en perspective, l'ombre des choses à venir, de la mort de leur Messie. Ils n'allaient pas commencer à se réjouir et faire une grosse bouffe là-dessus. Mais encore une fois, ils étaient debout, le bâton, on dégage. Donc, tout le temps mouvement. Dans la pensée juive, quelqu'un qui n'est pas en mouvement est quelqu'un de potentiellement mort spirituellement. Un être spirituellement vivant est un être en mouvement. Abraham, il bouge, tout le monde bouge. Dieu, il fait bouger tout le monde, géographiquement, mais intérieurement. Si vous êtes à l'arrêt un moment, vous êtes mal. Il faut tout le temps bouger intérieurement. Il faut se laisser bouger par Dieu. Alors, la ceinture, c'est très bien, mais Paul précise quand même que ce qui fonde l'être chrétien, ce qui ceint ses reins, c'est la vérité. Alors, la vérité, franchement, c'est un grand mot, et main Bible en main, la vérité, ça a été sujet à différentes interprétations bibliques. Deux. On a de la chance sur ce coup-là. Deux, en particulier. Donc, ce n'est pas n'importe quoi qui donne de la stabilité aux chrétiens. C'est la vérité. La dia, forcément pas de moi, j'ai été la chercher sur Internet. Vous verrez qu'ici, la vérité pour ceinture, directement, on a été chercher Jean 14,16. Jésus dit, je suis la vérité. On aurait pu mettre Jean 17,17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, donc, pour celui qui a fait cette dia, et je ne dis pas que c'est faux, pas du tout. La vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est une approche. Et il est clair que seule cette vérité rend libre et permet en outre de démasquer les manœuvres du diable, forcément. Plus vous êtes fondé dans l'Écriture, plus vous résisterez aux manœuvres du diable. Jésus, tentation dans le désert, Matthieu, relisez Matthieu 4. Il est attaqué trois fois, sournoisement, ça ne détruira personne, c'est le diable, mais il est attaqué sur des fondements scripturaires. Et Jésus le bloque comment? Il le bloque trois fois par la parole de Dieu, rien d'autre. N'essayez surtout pas de bloquer une attaque démoniaque par autre chose, la parole de Dieu, vous allez en prendre plein là, voilà. Croyez-moi, moi je suis né beau. Ça, c'est 4 ou 5 exorcismes dans ma vie. Vous voyez la tête? Les premiers, j'étais mal préparé. Et puis, je courais pas assez vite. Donc, il est tout à fait clair que seule cette vérité de la parole de Dieu rend l'homme véritablement libre puisqu'il lui permet de découvrir le Dieu qu'il aime et pour qui il a donné sa vie. Sans la parole de Dieu, nous sommes aveugle, et je vous laisse imaginer ce que ça donne un aveugle sur un champ de bataille. Il n'y a que dans les Jedi hein, que les aveugles sont aussi forts que les autres. Dans la vie réelle, on ne fait pas un soldat avec un aveugle. S'il ne faut pas faire. D'autres commentateurs, par contre, pensent que Paul fait ici référence à la vérité, plutôt dans le sens de sincérité et de droiture. Alors vous vous dites, ben, pourquoi est-ce qu'il pense ça? Eh bien, parce que le texte grec omet l'article défini. Il n'y a pas d'article féminin, puisque c'est un féminin, la vérité, dans le grec. Il n'y a pas d'article devant le substantif, devant le nom commun, si vous préférez. Ce qui a fait dire à certains, quand on parle de l'écriture, la parole de Dieu, il y a cet article la plupart du temps. Là, il n'y est pas, donc il doit parler d'une autre vérité que celle-là. Alors, c'est vrai que la vérité doit être autre chose qu'un principe. Nous devons l'incarner. Elle doit être avec nous, la ceinture, tout le temps. Elle doit donc faire partie de nos vies. Mieux, elle doit être profondément enfouie dans nos cœurs. C'est ce que David demande dans le psaume 51, où il demande pardon à Dieu de son péché. Il dit que ta vérité soit au fond de mon cœur. Pas sur ma tête, pas flottant dans l'air, en moi, à demeure. Donc cette vérité-là, cette honnêteté-là, ce symptôme-là de la présence de Dieu dans nos vies doit évidemment faire partie de nos vies. Nous devons donc nous conduire en personne honnête, véridique et authentique. C'est important aussi. Ça ne vous aura pas échappé. Si vous n'êtes pas honnête, véridique et authentique, vous serez simplement une autre chose. Vous serez hypocrite. Encore, il n'y a que deux choix. Et je rappelle que l'hypocrisie, c'est tromper, manigancer, intriguer, et que tout ça ne peut pas faire partie des armes du chrétien. Pourquoi ? Parce qu'elles font partie de l'arsenal de notre ennemi. Rappelez-vous, la première tentation de l'histoire biblique, hein. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Tu es sûr ? Ça s'adressait à la femme. Hein. Ben quoi ? C'est biblique. Ce serait donc faire le jeu du diable que d'utiliser ses armes à lui contre lui. C'est non seulement inefficace, mais aussi complètement idiot. La vérité, par contre, est forcément très efficace, car elle met tout en lumière, elle révèle ce qui est caché. C'est pour ça que dans les textes bibliques, on appelle toujours les enfants de Dieu à être et à vivre dans la vérité, même quand ça fait mal. Rappelez-vous une de nos valeurs. Hein. Nous préférons toujours la lumière, même quand elle fait mal aux yeux. La lumière, ça s'accompagne toujours de l'amour et de la miséricorde, hein, et du pardon. Hein. Mais il ne faut jamais se taire. Hein. Quand il y a de l'obscurité, quand il y a des cadavres dans le placard et qu'on sait qu'il y a un cadavre, il faut ouvrir l'armoire, il faut mettre de la lumière, hein, toujours. Donc la vérité est par contre très efficace, car elle met tout en lumière et elle révèle ce qui est caché. Elle fait fuir les ténèbres. Une bonne santé mentale et spirituelle exige donc que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Avant de si vous ne l'êtes pas envers vous-même, vous ne serez pas envers les autres. Hein. Ça, c'est sûr. Je me souviens, en réfléchissant à tout ça, il y a quelque chose qui m'est revenu. Je me souviens que peu après ma rencontre avec Dieu, après ma conversion, j'avais connu une situation où j'étais arrivé à me maîtriser, et à l'époque, ce n'était pas gagné, et à ne pas tomber dans la violence. À l'époque, je distribuais des baffes comme des petits pains. Quoi. Vraiment. J'étais un mec très généreux à ce niveau-là. Par contre, la nuit même, j'ai été assailli par des pensées terribles à l'égard de la personne que j'avais laissé repartir sur ses deux jambes. Ça m'assaillait vraiment. Je ne parvenais pas à me débarrasser de ces pensées qui devenaient de plus en plus réelles pour moi. Je vivais vraiment la sainte, ce qui aurait dû être si je m'étais laissé aller à cette violence. C'est alors, merci Seigneur, beau réflexe, je dis merci Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé sans doute à faire ça. J'ai demandé l'aide de Dieu. J'écoute, il faut m'aider parce que là je vais péter un câble. Quelques minutes plus tard, je suis toujours allongé les yeux grands ouverts sur mon lit, quand je me vois tout à coup comme dans un film, vraiment, entrer dans une grande maison. Je suis éveillé, je ne rêve pas. Hein. Je me vois entrer dans une grande maison. J'entre, et là, je grimpe des escaliers, et je me retrouve tout de suite au grenier. Je rentre, imaginez. Hein. La porte grinçait, je suis vraiment désolé. Hein. Je rentre dans le grenier, et là, je tombe sur deux mâles militaires. Vous voyez, mal militaire, kaki, voilà. Gros machin en acier, là. Je m'approche de la première et je lis sur celle-ci « Lieutenant-colonel Yves Seymounz », moi. Lieutenant-colonel, hein, quand même. Ça rigolait pas. Hein. J'ouvre la malle et à l'intérieur, je trouve mes armes d'avant. Avant de connaître Dieu. Violence, terreur, pouvoir, peur, etc. Tous des trucs très sympas. C'est vrai que ça procure du pouvoir, hein, rentrer dans une pièce et dire « plus personne ne respire ». Respirer, quasi sain, c'est terrible. Je me dirige alors vers l'autre malle et je lis ce qui est inscrit. Écoutez, hein. Soldat Yves Seymounz. Merde, mon grade. L'armée de Dieu, les grades, c'est pas. On va peut-être ça, nos amis cathos. Les grades, c'est pas trop son truc. Hein. J'ouvre la malle et à l'intérieur, j'y trouve mes nouvelles armes. L'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la fidélité, etc. etc., etc. La vérité aussi, bien entendu. Et c'est là que j'entends la voix de mon Seigneur. Et il me dit, j'en ai choisi, hein, je n'ai jamais oublié, hein, « Yves, tu devras toute ta vie durant choisir de quelles armes tu veux te servir. Mais une chose est sûre, si tu veux me servir, moi, tu ne pourras plus utiliser tes anciennes armes. » Ou tes anciennes armes, plutôt. Et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas toujours facile, même après des années et des années et des années de vie chrétienne. J'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui que je n'ouvre plus jamais l'ancienne malle. Alors, la violence dans le sang, je fracasse la tête des gens, ça je vous rassure, il y a longtemps que c'est passé. Quelle chance. Mais pouvoir vous dire aujourd'hui devant vous que je ne m'utilise plus jamais une de mes anciennes armes, je mentirais. Pourquoi ? Parce que mon ancienne nature est là. Ce n'est pas une excuse, hein, c'est une réalité. Et l'ancienne nature, nous avons tous une, elle est plus ou moins chargée. Il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre, hein, que celle d'une autre. Je sais bien qu'on catégorise fort, quelqu'un de violent, il sera forcément plus stigmatisé que quelqu'un qui ment à longueur de journée, hein, ou qui est hypocrite, ou qui est plus dans la subtilité psychologique pour faire du mal aux autres. Moi, si je vous en colle une, ben c'est clair que ça, on ne va pas l'oublier. Surtout celle de la personne qui l'a prise. Mais très sérieusement, donc, il faut faire attention, puisque j'en parle, à cette stigmatisation de certains types de comportements. Ça, c'est acceptable, si c'est en dessous de tout. Ça, ce n'est pas du tout, mais c'est aussi en dessous de tout. Faut faire. Oui, mais c'est vrai, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est drôle. Mais c'est exactement ce qui se passe dans nos têtes. Hein. Ça, c'est acceptable. Dans l'Église, on accepte plein de trucs qui sont totalement inacceptables aux yeux de Dieu. Mais comme ça ne dégage pas trop de trucs négatifs, ça va, quoi. Ça, on peut faire semblant de faire avec. Donc cette réalité existe, nous avons tous une malle avec nos anciennes armes, liaisons. Et il n'y a pas de cadenas sur cette malle, donc on peut facilement l'ouvrir, parce qu'elle fait partie de notre ancienne nature. Si vous voulez la localiser dans votre vie, elle est dans votre ancienne nature, cette malle. Une chose est sûre par rapport à ça, si cette image vous aide, tant mieux, hein. Avec ces mâles. Une chose est sûre, en tout cas, par rapport à ça, c'est que nous ne pouvons plus marquer, normalement, contre notre camp. En football, il peut se passer beaucoup de choses, vous savez, pendant 90 minutes. Hein, mais le pire du pire, croyez-moi, c'est marquer contre votre camp, et je l'ai fait, moi. J'étais jeune. Je jouais devant, il m'avait mis derrière. C'était pas malin. Donc, voilà. Mais c'est totalement, et si les réactions sont tellement négatives envers quelqu'un pendant un match de foot qui marque contre son camp, c'est parce que c'est l'antithèse des règles du jeu. Enfin, on n'est pas sur le terrain pour marquer dans son camp, on est sur le terrain pour marquer dans le camp de l'autre. Hein. La vie spirituelle, c'est la même chose. Dès que vous employez des armes qui ne sont pas celles de Dieu, vous marquez contre votre camp. Pire, si on reprend la dimension guerrière de l'image employée par Paul, vous tirez contre votre camp. Vous blessez des gens de votre camp. Et vous blessez le cœur de Dieu aussi. Je blesse le cœur de Dieu. Quelle que soit l'approche que l'on prend de ces deux approches, hein, vérité dans le sens biblique du terme ou vérité dans le sens implanté dans le cœur, je vais donner mon avis à moi. Parce que honnêtement, je ne tranche pas sur le sujet, tellement pour moi, ces deux dimensions sont indissociables. Comment pourrait-on être habité par la parole de Dieu et petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, ne pas finir par avoir cette vérité profondément ancrée dans le cœur, avec comme conséquence que nous devenons sincères, honnêtes et droits. Ces deux dimensions sont indissociables. D'un côté, la vérité doctrinale, de l'autre, la vérité du cœur. la sincérité. Je crois que le mieux, encore une fois, c'est mon avis, hein, vous en ferez ce que vous voulez, je crois que le mieux est d'associer les deux. Parce que dans la réalité, je terminerai par ça, dans le réel, l'une n'existe pas sans l'autre. Sans la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais devenir sincère, honnête et droit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse en cette nouvelle année. Et toute l'année. Soyons fous. Toute l'année.